coucher.
On n'est pas des cadeaux, l'émission transpédéguine est féministe.
On ne naît pas hétérosexuel. On le devient pas toujours.
Le genre, ça se construit, le corps aussi.
Transpédéguine.
On n'est pas des cadeaux.
Une émission transpédéguine et féministe.
Rêve de princesse, vie de cauchemar.
On n'est pas des cadeaux. Une émission transpédéguine et féministe. Sur Radio Canu.
La plus des radios.
La plus rebelle des radios.
Votre hétérosexisme n'a fait que nourrir notre rage. Votre haine n'a fait qu'embellir nos amours. Aujourd'hui plus que jamais, nous ne voulons ni de votre sexualité bénitier, ni de votre normalité, ni de votre ennui, ni de votre aliénation, ni de votre intégration dans ce système patriarcat capitaliste raciste, nourri de la domination des unes sur les autres.
Une émission transpédéguine.
Enfin, surtout transpédéguine.
Bonjour. Donc vous êtes bien sur Radio Canu. C'est On n'est pas des cadeaux, l'émission transpédéguine féministe d'un vendredi sur deux. Et ce soir, on va parler principalement de Bashback, qui est donc un mouvement anarcho-queer états-unien. Mais d'abord, les infos.
Les infos.
Tout le monde se rue sur nous, mais notre patience est à bout. Qu'on aime une fille ou un gars, cela ne vous regarde pas. Il faudra vous faire une raison de la chose. Nous ne portons plus le triangle rose.
Enfin, les informations, quoi.
Et pour commencer, on va revenir sur la déclaration de François Hollande à Alger. Donc, la déclaration de François Hollande a fait du bruit parce qu'il est revenu sur le colonialisme et les actions du colonialisme en Algérie néfastes. Mais on peut dire qu'il était un peu soft dans ses déclarations quand même. Il a dénoncé les 132 ans pendant lesquels l'Algérie a été soumise à un système profondément injuste et brutal, la colonisation. Puis il a expliqué qu'à Sétif, la France a manqué à ses valeurs universelles. Enfin, il souhaite que les historiens aient accès aux archives pour que la vérité puisse être connue de tous. Donc c'est un peu la première fois que la France ou un président français revient sur les effets de la colonisation d'une manière négative. Ceci dit, c'est quand même assez soft comme déclaration, on peut dire, qu'à aucun moment il n'a évoqué la responsabilité en tant que telle vraiment de la France. Il a parlé plutôt des souffrances subies par le peuple algérien. Et la France n'a toujours pas reconnu sa responsabilité dans les crimes contre l'humanité subis par le peuple algérien. Et comme pour le 17 octobre 61, il s'est bien gardé de nommer l'assassin, c'est-à-dire l'armée, l'administration, la police coloniale, les colons, le gouvernement français. Bref, toute la France, ou presque, à l'exception d'hommes et de femmes d'honneur. Il a mis en cause la colonisation, mais jamais la France. Il n'a même pas parlé de colonisation française. Voilà, un petit retour sur ces déclarations et qu'on pourrait attendre d'autres choses ou surtout pas du président français.
Pour passer à des informations plus LGBT ou transpédéguines, en fait, il y a une recrudescence d'appels à SOS Homophobie en décembre. Donc en fait, SOS Homophobie, c'est une association de lutte contre l'homophobie et ils ont une hotline là où... un numéro de téléphone où on peut appeler pour reporter des épisodes homophobes et avoir du soutien. Et du coup, SOS Homophobie affirme avoir reçu 3 fois plus d'appels en décembre que l'an dernier. et l'association envoie la cause dans le débat entre guillemets sur le mariage pour toutes. Donc effectivement, ça a pour conséquence que les opposants et autres homophobes se lâchent. Et en plus, évidemment, comme c'était la période des fêtes, on avait le droit de voir nos familles et de savoir ce que tout le monde en pensait. Voilà, c'était formidable. Sinon, une information pas très intéressante, mais un peu rigolote, c'est que le premier bébé de 2013 en France, en fait, c'était un bébé qui avait deux mamans. Donc voilà. Et sinon, à part ça, on en rigole. Il y a un pasteur américain qui a déclaré que caresser des chevaux, ça faisait devenir hétéro. En fait, en Virginie, un ranch aiguise promet aux gays qu'ils seront débarrassés de leur homosexualité en suivant des stages d'équitation, car les hommes deviendraient plus masculins au contact des chevaux. Voilà, je pense qu'ils n'ont pas vu Brokeback Mountain. Peut-être on devrait leur envoyer le DVD.
C'est plus quoi inventer hein, pour devenir hétéro.
Le comportement homosexuel est évidemment une menace pour l'humanité. Une menace pour l'humanité.
Reportage.
Alors, du coup, on est de nouveau sur On n'est pas des cadeaux. Désolée d'avoir eu un petit problème technique. On dirait que c'est la soirée. Alors du coup, ce soir, on va parler de Bashback. C'est un réseau anarcho-queer états-unien qui était actif entre 2008 et 2009. Et du coup, voilà, il s'agit de notre histoire. Mais comme l'histoire avec un grand H se débarrasse assez facilement de nous, transpédéguines, voire de certaines parties de cette histoire parce qu'elle pourrait ne pas donner une bonne image de nous, il a fallu attendre cet automne pour que ce mouvement gagne en visibilité dans nos contrées. Ce qu'il faut, c'est que nous nous chargeons de raconter notre propre histoire. Et c'est ce qu'on va faire un peu ce soir. Comme il faut chaque année que nous rappelions pendant cette grande farce assimilationniste et capitaliste qu'est la Gay Pride, qu'elle célèbre Stonewall, qui était une émeute transpédéguine contre la police, par exemple. On va entendre un montage, là, tout à l'heure, du coup, de 20 minutes, de Davin, qui est un PD de Milwaukee. Milwaukee, c'est une ville du Midwest états-unien. Et du coup, il va raconter l'émergence, les actions et la mort de Bashback en tant que mouvement. Ça a été enregistré à Grenoble lors d'une soirée intitulée Queer Insurrection. Et en fait, c'était une tournée dans plusieurs villes de France où deux anciens membres de Bashback, Finn et Davin, venaient raconter leur expérience. Il se trouve que Davin a travaillé sur un livre qui est une anthologie des textes politiques produits par le réseau Bashback. Et ce livre, ça s'appelle Bashback, An Anthology of Queer Ultraviolence. La tournée accompagnait la sortie d'une brochure intitulée Queer Ultraviolence qui compilait des extraits du livre traduit en français. Donc voilà, on va discuter un peu sur la brochure et autour du montage tout à l'heure. Alors tout d'abord, ça veut dire quoi Bashback? Déjà, on va peut-être contextualiser un peu ça. En fait, en anglais, il y a un mot spécifique pour les agressions homophobes, lesbophobes et transphobes, c'est « to bash ». C'est un peu comme le mot « ratonnade » qui est particulièrement utilisé pour les agressions racistes, quoi. Et du coup, « bashback », ça veut dire « riposter », mais spécifiquement aux agressions homo, lesbo, transphobes, quoi. Ensuite, pour contextualiser Bashback, c'est un mouvement assez disparate, quoi. C'est un réseau, mais qui se retrouve autour de dénominateurs communs de la critique du mouvement gay, LGBT, assimilationniste ou intégrationniste. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de demander des droits aux dirigeants d'un État qui nous fout la gerbe, mais d'avoir comme but le fait de devenir comme les hétéros, mais plutôt le rejet de la société hétéropatriarcale. Autre dénominateur commun, l'ancrage dans une analyse anticapitaliste et anarchiste, le recours à l'action directe dans une diversité de tactiques, y compris celles qui seraient étiquetées de violentes ou illégales ou terroristes par l'État et les institutions du pouvoir dominant. Voilà. Ils utilisent pas mal le mot queer dans le montage. C'est un mot anglais qui fait référence à toutes les personnes LGBT, donc lesbiennes, gays, bi, trans, mais en faisant référence quand même particulièrement à l'idée que toutes ces personnes ne sont pas dans la norme hétérosexuelle, quoi. Et enfin, un dernier truc, on va, dans le montage, ils vont parler du mouvement Occupy. C'est un mouvement qui a pris, enfin, qui était assez international dans l'année, à fin 2011. Et c'est un mouvement de protestation sociale sur les inégalités économiques qui était inspiré du printemps arabe. Voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez ce moment où il y a plein de gens dans plein de pays qui se sont mis à occuper des places. C'est ça le mouvement Occupy. Voilà. Alors du coup, maintenant, on va s'écouter le montage de Davin qui raconte son expérience. C'est un montage où il parle en anglais, où il y a la traduction en français dessus. Du coup, c'est pas hyper facile à écouter. Cette émission est toujours aussi DIY. Donc, c'est pas toujours facile à écouter, mais je vous conseille vraiment de vous accrocher parce que c'est vraiment intéressant. Voilà. Et on se retrouve tout à l'heure pour parler du montage.
Donc, je vais parler de Bashback, qui est un réseau anarchiste queer aux États-Unis. Ça s'est créé dans ma ville à Milwaukee. Les premières cellules du Bashback ont été créées plutôt dans les villes du Midwest, comme Chicago. Du coup, les premières cellules étaient un réseau transpédéguine qui était déjà dans le milieu anarchiste. Et ça s'est créé pour avoir un blog spécifiquement transpédéguine et féministe aux États-Unis. Personnellement, j'étais impliquée dans Bashback Milwaukee, qui, en plus d'être la première cellule à se créer, est la première à se dissoudre. Et on s'est surtout intéressé à des stratégies de self-défense et à combattre les fascistes. Moi et d'autres amis de Milwaukee, on a été poursuivis à un procès. Donc c'était après une manifestation qui a interrompu une messe dans une grande, méga église qui s'appelle Mount Hope, la colline de l'espoir. Et dont le résultat du procès, c'est que moi et des amis, on est officiellement interdit d'aller dans un lieu de culte aux États-Unis. Du coup, quand je dis que Bashback Milwaukee a été une des premières cellules à se dissoudre, pour moi, Bashback, ça représente plus de choses que juste une organisation. Et d'ailleurs, pour moi, les événements les plus importants liés à Bashback se sont produits des années après que Bashback soit officiellement fini. J'ai deux exemples. Le premier, ça s'est passé à peu près un an après la fin de Bashback, quand j'habitais encore à Milwaukee. C'était un vendredi soir de l'été 2010. C'était à peu près autour de minuit. De toute évidence, j'étais à la maison en train de lire. Tous mes potes, ils étaient à une soirée dans le quartier étudiant. Et du coup, c'était mon copain à l'époque qui m'a appelé pour me dire que lui et des potes, à lui, étaient en train de se faire courser par des frat boys. C'est un nom qui définit les membres des fraternités dans les universités américaines. Je ne sais pas si vous voyez les trucs avec les lettres grecques, là. C'est plutôt des mecs blancs de classe sociale supérieure. Ils les poursuivaient sur des motos en leur gueulant « on va vous tuer, bande de PD ». En juste quelques minutes, on a réussi à rassembler tous nos amis anarchistes pour aller dans ce quartier-là. On s'est rendu avec des voitures et des battes de baseball. Du coup, on s'est battu avec ces gars-là et on a ramené nos potes à la maison. La raison pour laquelle on a réussi à se mobiliser aussi vite, c'est parce qu'avec Bashback, on a mis en place un réseau spécifiquement dédié à répondre à ce genre d'agression qui arrive souvent. Notamment, on avait fait un arbre de numéros de téléphone où on s'appelle les uns les autres et on avait aussi des armes. On s'était mis d'accord sur le fait que quand quelqu'un nous dit qu'il est agressé, on ne le remet pas en cause, on le croit direct, du coup on y va. Le deuxième événement s'est produit juste après mon déménagement de Milwaukee. Une femme qui s'appelle Chanel Larkey, qui est une femme noire, trans, et qui était une travailleuse du sexe dans notre quartier. Elle a été tuée par son client. Quand elle a révélé à son client qu'elle était trans, il a tiré dans sa tête 3 fois et il l'a tuée. Chanel était une personne qui travaillait beaucoup à l'organisation des travailleuses du sexe dans leur quartier. C'était quelqu'un qui était très connu. Du coup, il y avait beaucoup de gens qui étaient en colère de son assassinat. Et le lendemain, il y avait une performance de drag queen, drag king. Il y a eu un appel à faire une manif de nuit en son honneur. Moi, j'ai pas organisé ça, mais j'étais au spectacle de drag et j'ai participé à la manif. À la fin du spectacle, au début de la manifestation, il y a une personne qui portait un masque rose et qui est venue devant tout le monde et qui a dit que la personne qui a assassiné Chanel habitait à River West, quartier où tous les queers et les travailleuses du sexe travaillent. On a décidé d'aller jusqu'à sa maison. La manif est passée dans notre quartier, qui est, je le répète, le quartier queer et des travailleuses du sexe, et aussi des anarchistes. Sur le chemin, des personnes qui portaient des masques ont distribué des torches, une dizaine de torches, qui ont été allumées. Quand on est arrivé à la maison, les gens ont cassé les vitres et ont lancé les torches à l'intérieur. J'étais super surpris, mais très excité. Et au moment de courir pour rentrer chez soi, un groupe de jeunes qui étaient très excités, qui trouvaient ça empowering. C'est un mot qu'on n'a pas en français. Empowering, c'est l'idée de puiser de la force dans quelque chose, de s'autonomiser, de se sentir plus fort. Et donc, qui ont trouvé que c'était très empowering et se sont exclamés « C'était trop bien, est-ce que vous pensez que c'était Bashback ?» Même si Bashback s'était dissous 2 ans auparavant. Donc pour moi, ces deux événements-là, et aussi plein d'autres qu'on n'a pas cités ici, c'est la preuve que même si Bashback n'existe plus, le fait de riposter, ça continue jusqu'à maintenant. C'est pour ça que c'était super chouette pour moi de passer les dernières années à compiler ce livre. Le reste de ma présentation, ça va être de parler de thèmes clés qui sont dans le livre. Le premier thème, c'est une question sur qu'est-ce que ça veut dire de s'organiser, c'est-à-dire de militer. Le mode d'organisation de Bashback, c'était en soi queer, parce que ça variait beaucoup d'une ville à l'autre. Au total, il y a eu 20 de cellules Bashback dans tous les États-Unis. Même si elles ont toutes débuté comme des groupes activistes, pas underground, c'est-à-dire ouvertes, pas cachées, elles se sont toutes dissoutes et transformées en autre chose. À Chicago, le groupe Bashback organisait plein de soirées, énormes et très animées. À Olympia et Seattle, Bashback, c'était juste le nom qu'ils mettaient sur des communiqués d'attaques clandestines. Et dans plein d'autres villes, c'est devenu le nom d'un gang de rue. Donc pour moi, l'organisation informelle de Bashback a donné plus de liberté pour que chacune fasse ce qu'elle veut avec ça. Et ça a évité aussi de stagner. Bashback, c'est aussi intéressant parce que même après qu'on ait officiellement dissous tous les Bashbacks, les gens continuent à faire des actions. Un autre thème important autour de Bashback, c'est la notion de vengeance. C'est à une époque où d'autres groupes queer parlaient d'autres idées comme la justice sociale ou la justice transformative. Dans ce cadre-là, c'est intéressant de parler de vengeance. Parce que c'est pas une utopie. C'est pas de croire à un monde meilleur et c'est pas un militantisme où les gens croient que c'est la bonne voie ou la vérité ou la voie à suivre. Ça a pris la forme des gens qui se sont organisés autour de quoi ils avaient besoin et de quoi les personnes dont ils sont proches avaient besoin. Donc cette vengeance, elle s'est dirigée vers les églises et dont la plus connue, c'était l'attaque de Mount Hope, la colline de l'espoir, pour laquelle j'ai été une des personnes accusées. Mount Hope, la colline de l'espoir, est de ces énormes méga-églises, parce que c'est gigantesque. Des milliers de personnes qui viennent dans cette église. Les messes passent à la télé. Nous, on trouve que Mount Hope est particulièrement sinistre, parce que c'est les financeurs principaux de ce qu'ils appellent les camps hétéros. C'est des camps pour faire que les jeunes queers se transforment en jeunes hétéros. Ils organisent aussi ce qu'ils appellent les maisons de l'enfer. C'est comme une maison hantée. On fait rentrer des enfants, sauf qu'au lieu que ce soit une maison hantée, on voit des gays en train de brûler, des femmes qui ont avorté en train de brûler. Et il y a plusieurs membres de Bashback qui ont été forcés d'aller dans cette église durant leur enfance. On s'est réunis à plusieurs cellules Bashback pour aller déranger cette messe un dimanche matin. Ça a fait une controverse dans tous les États-Unis. Les gens de droite ont publié un texte appelé « Le terrorisme gay et Bashback ». D'autres attaques ont eu lieu notamment dans la région du nord-est des États-Unis. Finn veut que Devin explique ce qui s'est passé dans l'église. Les gens sont venus devant les chrétiens qui prient et ont commencé à se rouler des pelles, à fricoter. Et depuis les balcons de l'église, on lançait plein de capotes et des tracts. Et les chrétiens ont grave flippé. C'était le jour du jugement dernier. Tous les chrétiens disaient « ça y est, Satan est arrivé ». Les gens se sont évanouis, c'était assez dramatique. Beaucoup de ces actions étaient aussi antifascistes. À Milwaukee, un groupe néo-nazi a annoncé qu'ils allaient venir manifester contre la Gay Pride. Donc on a organisé un bloc queer pour les combattre. Les gens ont mis des cagoules roses et ont éclaté les nazis avec des battes de baseball. Et sur les banderoles, il y avait écrit « Les pédales niquent les fascistes ». Dans le New Jersey, un rassemblement fasciste a été attaqué et ça a fait des bastons avec des chaises pliantes. Plusieurs nazis sont allés à l'hosto et le communiqué qui a revendiqué les attaques s'appelait « L'art de rejeter la victimisation » en éclatant le crâne d'un nazi, signé une bande de pédales. Il y a beaucoup d'attaques de Bashback contre les organisations gays qui sont pour l'intégration. Les gens venaient notamment déranger la Gay Pride. Il y a un groupe aux États-Unis qui s'appelle la Campagne des droits humains, HRC en anglais, C'est la plus grande association pour le droit des gays. Mais ils sont financièrement liés à des prisons privées, à des centres de détention pour les migrants, au Parti démocrate et aux mêmes banques qui ont expulsé des milliers de personnes de leur maison. Du coup, c'était une cible particulière de Bashback. Leur bureau était souvent saccagé et leur dîner de gala pour la collecte des fonds était souvent interrompu par Bashback. Et la plupart des attaques, c'était des réponses aux meurtres de personnes queer. Juste pour que vous sachiez, si vous êtes une femme trans aux États-Unis, vous avez une chance sur 12 d'être assassinée. Bashback a essayé de répondre au plus de meurtres possibles. L'attaque dans le Milwaukee que j'ai raconté tout à l'heure est un exemple parmi tant d'autres. Dans plusieurs cas, des voitures de police ont été attaquées en réponse aux meurtres de femmes trans. À la fois parce que la police défend le système qui crée la transphobie et qui n'ont aucun intérêt à défendre ces personnes, mais aussi parce que souvent c'est la police qui est l'auteur de violences contre les personnes trans. Du coup, plusieurs voitures de police ont été sabotées en mémoire des personnes trans assassinées. La plus grosse campagne a été initiée par Bashback de Memphis, où une femme trans qui s'appelait Duana Johnson a été battue et torturée en garde à vue. Mais ça a été filmé par les caméras, du coup Duana a porté plainte contre le département de la police. Le lendemain où elle a déposé sa plainte, elle a été retrouvée morte dans une ruelle. Plusieurs personnes qui l'ont vue juste avant son assassinat l'ont vue être suivie par quelqu'un qui ressemblait beaucoup à un officier de police, qui s'appelle Bridget Macre, qui était l'officier contre qui elle avait porté plainte. Et plusieurs personnes ont vu Bridget Macre la suivre dans la ruelle où elle a été retrouvée morte. Mais la police a refusé de prendre les témoignages et a refusé de faire une enquête sur ce meurtre. Les gens ont organisé une campagne contre la police de Memphis, et particulièrement contre ce mec-là. À plusieurs occasions, sa voiture personnelle et de police ont été attaquées. Et un matin, alors que lui et sa famille étaient sur le chemin de l'église, un corbillard est venu devant leur maison et a livré un cercueil rose avec son nom marqué dessus, et avec une petite carte disant « Retrouvons-nous en enfer, signé Duana ». Sa famille était vraiment contrariée. Dans le cadre de cette campagne, il y a eu pas mal de fois des interruptions de trafic, distribution de tracts pour Duana. Récemment, le dernier cas similaire, c'est le cas d'une personne qui s'appelle Cici McDonald. Cici est une femme noire trans attaquée dans un bar où un néo-nazi appelé Dean Smith l'a tapée au visage avec un verre et l'a insultée d'injures racistes. Quand elle s'est défendue, Dean Smith s'est retrouvé poignardé et les ciseaux de Cici ont frappé au milieu de son tatouage le croc gammé. Cici a été arrêtée et même si elle se défendait, elle a été condamnée à 4 ans de prison. Où elle est en ce moment. Beaucoup d'anciens membres de Bashback sont les personnes principales dans son groupe de soutien, et en plus de faire du soutien juridique, il y a eu beaucoup d'attaques aux États-Unis en solidarité avec elle. Des voitures de police ont été attaquées en son nom, des bars fascistes ont été attaqués en son nom, de super grandes manifs ont été organisées, et une fois un cocktail Molotov a été lancé contre une banque, West Fargo, qui est haïe aux États-Unis, car elle finance les prisons et les centres de détention. En résultat de cette attaque au cocktail Molotov, Wells Fargo, la banque, a décidé d'arrêter de financer la Gay Pride de Portland, ce que les queers radicaux avaient essayé de faire depuis 10 ans, et il a fallu juste un cocktail Molotov pour faire ça. Un des autres thèmes, c'est que Bashback n'est pas seulement une orga militante, c'est aussi la tentative de créer une culture queer criminelle, notamment parce que personne, et encore moins la police, allait arrêter les attaques contre les queers. Bashback a organisé la culture de l'autodéfense, ce qui comprend les arbres de numéros de téléphone et les réseaux d'autodéfense, entraînement et ateliers pour apprendre à se battre, mais aussi des distributions d'armes. Les gens volaient et revendaient, et avec l'argent, on achetait des bombes lacrymo et des tasers à distribuer à tous les queers qu'ils voulaient. Les gens ont beaucoup squatté et ont créé des centres sociaux queer, comme un collectif à Chicago et aussi un squat à Memphis, appelé Martha P. Johnson. Martha P. Johnson est une ancienne de Stonewall. Elle a créé un groupe qui s'appelle STAR, qui voulait dire trans de rue et d'action révolutionnaire. Elle avait une maison où elle accueillait des jeunes trans pour qu'elles ne fassent pas de travail de sexe. Ce squat à Memphis porte son nom et les queers en fugue peuvent y trouver refuge. Les gens organisaient des soirées, des booms, des sex parties, qui en général se faisaient attaquer par la police. Mais les gens avaient pris l'habitude, quand la police arrêtait les soirées, de péter leurs caisses. Sans doute un des plus gros événements qui a eu lieu pour Bashback, c'était le contre-sommet du G20 à Pittsburgh. celles qui ne savent pas, le G20 est le groupe des 20 nations les plus puissantes du monde, et dont c'est le rassemblement. En septembre 2009, Obama a invité le G20 à se réunir à Pittsburgh. C'était un sommet dit d'urgence, et la première fois que les plus grandes nations se réunissaient pour parler des stratégies vis-à-vis de la crise, qui était nouvelle à l'époque. C'est là qu'ils ont dessiné tous les plans des restructurations financières qu'on a depuis la crise. Mais c'était aussi un jour important pour la résistance anticapitaliste. Le premier jour, le 24 septembre, il y a eu plusieurs vagues d'émeutes. C'était les émeutes les plus folles que les États-Unis aient vues depuis super longtemps. Et après la troisième vague, il y a eu un grand cabaret queer, avec une rumeur comme quoi tout le monde devait se réunir après le cabaret pour faire une manif internationale pour la libération queer. À 10h du soir, une annonce a été faite qui disait qu'on allait commencer à faire une manif bashback. Il faut savoir que ce cabaret se passait dans le quartier le plus haï par tous les anarchistes de Pittsburgh. Un quartier où il y a tout le temps des attaques racistes et homophobes. Tous les différents métiers de l'armée ont un bureau de recrutement dans ce quartier. Il y a des universités où il y a des laboratoires où ils font de la vivisection animale. Et aussi des laboratoires qui construisent les drones de l'armée américaine sont dans ce quartier. Il y a des bars ouvertement fascistes. De façon générale, tout ce que tu peux imaginer de mauvais goût, tu le trouves là-bas. Du coup, les queers et les anarchistes ont attendu des années d'avoir l'opportunité de faire une manif dans ce quartier. Après ça, les organisateurs de la manif ont demandé aux participants d'attendre 3 pâtés de maison avant de commencer l'émeute, pour permettre à celles qui ne voulaient pas participer de s'en aller. Une centaine de personnes s'est retrouvée derrière une banderole de bashback. Ils ont avancé le long de ces 3 pâtés de maison et n'ont rien cassé, même s'il y avait plein de banques et de Starbucks. Après ça, ça a été la vague d'émeute la plus destructive de la journée. Le commissariat, les bureaux de recrutement, l'armée, les banques, les magasins, des grandes entreprises ont tous été complètement détruits. Et c'était de loin ce qui s'est passé de plus fou de toute la journée. Les gens de la manif criaient « On est là, on est queer, on est anarchiste, on va vous défoncer ». Tout ça a créé beaucoup de controverses. Des gens ont fait des remarques. Je comprends pas comment ça c'était queer. C'est juste des gens habillés en noir qui cassaient des trucs. Du coup, il y a eu un communiqué qui expliquait que porter des masques et casser des trucs, c'était la chose la plus queer qu'on pouvait faire. Ça a été complètement ignoré par les anarchistes hétéros. Ceux qui en ont parlé, ils disaient que c'était juste une manif sur le thème queer. Et en fait, même il y a un universitaire anarchiste qui a publié un essai entier pour expliquer que c'était vraiment génial, parce que c'était des gens qui criaient « je suis queer ». Et de toute évidence, vu ce qu'ils étaient en train de faire, c'est-à-dire tout défoncer, ils ne pouvaient pas être queer. Il y a eu plein de textes de réponse à cet essai. Une personne a été arrêtée dans cette manif. Une personne qui s'appelle David Gepenga. Il a été accusé d'avoir lui tout seul détruit chaque fenêtre de cette nuit-là, lui tout seul. Et il pense que c'est cool. Il a été condamné à 18 mois de prison. Il en a fait seulement 4. Et lui, il croit que s'il a été libéré plus tôt, c'est parce que chaque semaine qu'il était en prison, les trucs défoncés ont été réattaqués encore et encore. Du coup, il pense que la ville l'a laissé sortir de prison pour que les attaques s'arrêtent. Il pense que c'est un exemple très bon de solidarité révolutionnaire. Le thème principal et tous les autres thèmes amènent au thème de la violence. Moi, j'étais en train de travailler sur toute cette anthologie de textes au moment où il y avait plein de débats aux États-Unis sur la violence à cause du mouvement Occupy. Il y a 2 points majeurs dans ces textes. Le premier, c'est que les personnes qui ont le pouvoir ont toujours la capacité de déterminer qu'est-ce qui est ou n'est pas de la violence. Les attaques incessantes sur les queers et tous les suicides de jeunes queers ne sont pas considérés comme de la violence. Mais quand il y a des gens qui répondent à cette violence, ils sont considérés comme irrationnels, que cette violence est injustifiée, que sont appelés violents. Un bon exemple, pendant l'occupation d'une université en Californie récemment, plusieurs étudiants s'étaient accrochés ensemble et s'étaient assis. La police est venue les attaquer avec des tonfas et les a aspergés de gaz lacrymogène. Ça a créé une grande controverse. L'administration de cette université a répondu en affirmant que, premièrement, les officiers de police n'ont pas été violents parce qu'ils suivaient les ordres. Et deuxièmement, les personnes qui s'étaient accrochées ensemble étaient violentes parce qu'elles avaient désobéi. Et du coup, c'était elles les violentes parce qu'elles se sont accrochées les bras et qu'elles ont forcé la police à les attaquer. Pour moi, c'est un exemple qui montre comment le récit de la violence se déroule tout le temps. Puisque les personnes opprimées qui répondent par la violence à qui les opprime sont toujours considérées comme violentes, injustifiées ou irrationnelles. Bashback a revendiqué cette irrationalité et s'est réapproprié le terme « ultra-violence ». Le deuxième grand point, c'est que pour les gens de Bashback, on ne s'est jamais posé la question de la violence. Elle était considérée comme déjà là. Même dans le nom, Bashback, les gens nous attaquent et nous on répond. De ça et de nos expériences personnelles, les personnes de Bashback ont refusé de débattre sur la violence et sur la non-violence. À la place, on s'est interrogé sur comment on s'organise pour répondre à la violence quotidienne de nos vies. Ça a été influencé par la grande histoire de la violence queer, comme l'émeute de Stonewall, et plein d'autres exemples. Et bon, même si je dis qu'on ne se questionnait pas sur la violence, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas une controverse. Et notamment au niveau des anarchistes hétéros qui refusaient de considérer Bashback et de comprendre que la violence est une stratégie utilisée par Bashback. Un groupe qui s'appelle Crime Think a publié un article qui, encore une fois, décrivait les actions de Bashback comme à thématique queer. Il critiquait les anarchistes qui participaient à des émeutes ou à des attaques violentes en disant que celles qui exerçaient la violence ne l'ont jamais expérimentée dans leur vie, ce qu'ils pouvaient seulement affirmer en ignorant Bashback, qui était alors la tendance majoritaire de ceux qu'ils critiquaient. Cette tendance à ignorer l'idée que les queers peuvent être violents, c'est pas seulement du fait des hétéros. Il y a aussi beaucoup de groupes queer radicaux aux États-Unis qui ont dénoncé les actions de Bashback. C'est des personnes qui célébraient les émeutes qui se sont passées il y a 40 ans et qui célébraient aussi les émeutes qui se sont passées dans d'autres pays. Mais quand des personnes participaient à ces activités là et au moment où eux y sont, ils s'opposaient à ça. Pour moi, je le lis à leur carrière confortable d'universitaire. Mais de toute façon, il y a cette tendance à voir les queers comme des victimes et de façon générale, toutes les personnes féminisées. Bashback était une tentative pour se réapproprier la violence et d'agir par nous-mêmes.
In New York, the shooting of another unarmed black man raises further questions about NYPD tactics. On Thursday, an undercover police officer shot and killed Patrick Dorsman. African immigrant Amadou Diallo.
Alors, on vient de s'écouter un morceau de Le Tigre, qui est donc un groupe féministe que de meufs, et qui a fait cette chanson qui s'appelle Bang Bang, qui est une chanson justement en réaction à un meurtre raciste donc d'une personne noire par la police de New York. Et il y avait plusieurs... Il y, y a eu plein de manifs en fait et des émeutes à, suite à ce meurtre. Du coup, ça collait bien avec le thème. Voilà. Du coup, après toutes les informations hyper intéressantes qu'on vient d'entendre sur Bashback, on avait envie de revenir en particulier du coup sur un thème de la violence.
Voilà, on va discuter maintenant un peu et rebondir en se penchant un peu sur le contexte français en écho à ce qu'on vient d'écouter. Parce que notamment en France, l'idéologie de la non-violence prend beaucoup de place et du coup, ça nous paraissait important d'y réagir, de faire écho. Et je vais notamment m'appuyer sur un article du dernier Tumult qui s'appelle « L'idéologie de la non-violence en question ». Et en se penchant un peu sur cette question de violence, on peut un peu vite voir que la violence, ça ne veut pas dire grand-chose en soi, de manière absolue. Ça ne peut pas être défini de manière absolue. C'est une notion abstraite qui implique du jugement, qui est un jugement situé de la part des personnes qui parlent et du coup qui vient essentiellement du discours dominant sur des personnes dominées ou minoritaires et des actes minoritaires, comme on peut le constater et le voir tous les jours dans les informations. Une manifestation va être discréditée, elle est parce qu'elle est jugée violente, mais pendant ce temps, dans l'ombre, il y a des centaines et des milliers de Roms qui sont expulsés là pendant tout l'été par le gouvernement socialiste. Et ça, on n'en parle pas. Et voilà, est-ce que c'est de parler des choses qui les rendent violentes ? Ou alors des mêmes actes peuvent être perçus comme légitimes parce que ça va être des flics et légitimés par la loi. Alors. Cet acte ne sera pas violent, alors que si c'est des manifestants qui vont casser des objets accessoires, là on va qualifier les choses de violentes. Donc on voit assez vite que tout ça c'est assez subjectif, et puis ça permet pas mal de diviser les questions des luttes plutôt que unir, et qu'on parle avant tout des moyens utilisés et non pas des buts qu'on cherche ensemble en fait, et que ça perd un peu les questions essentielles que de parler des quels sont les moyens, on n'utilise pas les bons moyens, plus que de chercher c'est quoi nos objectifs et ce à quoi on veut arriver. Et du coup je repars de cet article que je vous citais pour revenir sur des exemples historiques qui démontrent que, contrairement à ce qu'on en pense ou on en dit, c'est pas du tout les mouvements non-violents qui amènent des changements sociaux, forcément. Par exemple, en Inde, on entend beaucoup parler de Gandhi, de la non-violence par Gandhi. Curieusement, on apprend que, en lisant cet article notamment, que les liens entre Gandhi et la presse britannique et le gouvernement colonial britannique et les négociations qu'il y avait entre eux, et que forcément ça arrange plus le gouvernement britannique de parler d'un mouvement non violent plutôt que de, par exemple, Chandrasekhar Azad, qui était engagé dans la lutte armée contre les colons britanniques et des révolutionnaires comme Bhagat Singh, et qui a gagné un soutien massif par des attentats à la bombe et des assassinats. Forcément, c'est comme par hasard, on parle plus des mouvements non violents parce que peut-être que ça pacifie les mouvements sociaux et que ça donne moins envie de faire des révolutions ou des mouvements plus massifs. Également aux États-Unis, on parle plus de Martin Luther King, mais moins des Black Panthers. Et je vais aussi évoquer la guerre du Vietnam, où le mouvement pour la paix des États-Unis n'a jamais aidé ou marché pour amener la paix dans cette guerre-là. Par contre, il y a eu beaucoup d'activisme et de résistance de la part du peuple vietnamien qui n'était pas non violent du tout. Et il y a eu des rébellions à l'intérieur des troupes, portée avant tout par des soldats noirs, latinos, indigènes, des assassinats d'officiers, des sabotages, refus de participer au combat, mutinerie dans les campements et aide à l'ennemi. Toutes ces activités de soldats américains ont contribué de manière significative à la décision du gouvernement des États-Unis de retirer l'armée de terre. Voilà, donc ça fait plein d'éléments de réflexion, peut-être aussi de se dire que les personnes dominantes dans le système, ils sont pas si nombreux si on compte toutes les personnes qui sont dominées, exploitées, si elles prenaient les armes ou des moyens de lutte en s'unissant, bien sûr qu'on pourrait le changer ce système et accéder à d'autres victoires. Donc voilà, il faut peut-être pas douter de nos moyens de lutte et de ce à quoi on peut accéder.
Oui, c'est cool que tu mettes les choses au clair sur cette controverse-là. Moi, j'ai l'impression que quand j'ai découvert Bashback, je crois que je qualifierais un peu ce mouvement dans la diversité du paysage anarchiste de clairement un mouvement insurrectionnaliste. Et que je pense que j'ai des rapports complexes aux stratégies insurrectionnalistes, notamment à la fois je peux être enthousiasmée, avoir l'impression en tant que femme et en tant que Gwyn que ça me donne grave de la force de me réapproprier certains outils comme la lutte violente, des outils de lutte qui créent un véritable rapport de force et tout. En même temps, je pense que les critiques sur le virilisme de ce mouvement, elles me touchent en tant que féministe. C'est-à-dire que, en fait, il y a une vraie critique sur ce truc de, mais en fait, d'être tout le temps en train de glorifier la violence et la force dans un mouvement politique, ça le rend viriliste. En fait, ça laisse pas de place à la féminité, à l'expression de nos émotions, enfin voilà. Et ça me touche, quoi. Et du coup, c'était intéressant de voir des transpédéguines avoir ce type de stratégie tout en essayant qu'elles ne soient pas virilistes et puis que, de fait, en plus, elles l'étaient forcément moins vu que c'était des transpédéguines et des meufs qui s'impliquaient dans cette lutte, quoi.
Peut-être, ce que je retiens aussi du témoignage qu'on vient d'entendre, c'est l'esprit collectif dans lequel ils étaient et de se faire signe tous en même temps pour réagir et de cet esprit de aussi collectif du coup de pas faire à la place de toutes les copines qui peuvent être gouines, racisées ou qui ont moins les outils de la force ou du virilisme qu'elles ont appris, mais que du coup que ça soit pas que les mecs cisgenres PD qui agissent de manière violente, mais que ça puisse se transmettre entre eux et elles.
Ouais, d'ailleurs justement pardon. En parlant avec ces personnes-là, je pense qu'une autre critique des stratégies insurrectionnalistes qui me touche, c'est la critique du validisme. En fait, au fond, est-ce que c'est pas un peu validiste de promouvoir l'émeute comme seul moyen de changer le système et d'abattre l'État ? C'est-à-dire validiste dans le sens où, en fait, je pense pas que l'émeute soit forcément le moyen de lutte le plus inclusif pour les personnes qui sont en situation de handicap et non valides, quoi. Et du coup, on parlait de ça avec les gens de Bashback et eux, ils me disaient que c'est sûr que c'était pas parfait, mais que par contre, ils avaient participé à des émeutes Bashback qui étaient des émeutes où il y avait des personnes non valides en fait qui étaient là. Et du coup, moi je demandais un peu comment ça s'organisait, enfin tu vois, comment c'est possible et tout. Et avec mes idées préconçues sur qu'est-ce que c'est qu'une émeute, tout ça quoi. Et bon, mes expériences aussi. Et du coup, ils disaient, mais en fait, c'est un truc de groupe affinitaire là, que les personnes non valides en fait, elles ont des jantes autour d'elles qui s'organisent pour qu'elles puissent participer en fait, c'est-à-dire qui font groupe. Encore ce truc de collectif, encore ce truc de pouvoir dépasser tous les trucs qui nous empêchent d'avoir des stratégies violentes, les dépasser ensemble en fait.
Et puis, moi aussi, ça me fait, voilà, personnellement, quand on va aller vers des réflexions sur des trucs violents, bah, peut-être ma première réaction, c'est pas... Il y a aussi de la peur, il y a aussi de la fuite, parce que c'est pas évident, je suis pas sûre d'être à l'aise par rapport à plein d'actions, en fait. Mais en fait, voilà, violent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire grand-chose, ou ça veut tout dire? Et qu'en fait, il y a plein de manières d'imaginer des actions, entre guillemets, violentes. Il y a plein de manières d'attaquer ce système, d'aller vers des fonctionnements sans être dans... Voilà l'idée directe qu'on peut avoir des antifas un peu brutes par rapport à notre contexte franco-français, quoi.
Ou lyonnais.
Ou lyonnais, t'as. Voilà, c'est pas forcément du corps à corps de se rentrer dedans et dans des stratégies qui sont pas toujours très constructives non plus. Peut y avoir plein d'autres choses à imaginer à moins de personnes et en détournant des fonctionnements dans des rapports où on se sent plus à l'aise, où on peut imaginer les choses et que c'est pas... Le plus fort dans le sens la plus grande gueule qui va foncer dans le tas, qui sera la plus forte, en fait. C'est un peu plus complexe que ça et peut-être plus intéressant que pas mal d'actions qu'on fait souvent, de manifestations, etc.
Oui, et puis parmi les réactions, par exemple à la soirée à Grenoble où j'ai enregistré ça, par rapport aux violences, il y avait plein de gens qui étaient là, oui, mais en même temps... c'est intéressant, mais dans quel monde ils vivent? Et alors, c'est vrai que les États-Unis, c'est pas le même contexte que la France. Moi, je vois, par exemple, que c'est un pays... bon, d'accord, c'est la plus grande démocratie du monde. Waouh! Mais c'est aussi un pays où il y a pas... Il y a une pauvreté de ouf, en fait, et où il n'y a pas de système social comme celui qui est en France. Enfin, c'est pas pour encenser celui qui est français, mais juste pour voir, en fait, que, clairement, on n'a pas les mêmes situations.
On n'a pas des flingues pareilles en France.
Oui, c'est ça. L'accès aux armes aux États-Unis, il est quand même vachement différent en France. Et du coup, forcément... ça a une incidence sur les personnes les plus précarisées et quelles violences elles subissent. Et du coup, clairement, moi, j'ai l'impression que ce qui nous empêche en France, peut-être, d'avoir un mouvement comme ça, enfin, ou de l'envisager, c'est aussi un truc de... Ben, on a nos... enfin, dans la fuite et dans les peurs que j'ai, il y a aussi le... Moi, j'ai des privilèges, en fait, et quand ils parlent de répondre à la violence quotidienne de leur vie, ben par exemple, moi, en ce moment, même si ça m'est déjà arrivé d'avoir d'autres situations de vie, mais en ce moment, je n'ai pas l'impression de vivre une violence quotidienne lesbo-transphobe, homophobe, quoi. Et du coup, c'est peut-être aussi ça qui nous empêche de nous engager là-dedans, c'est tous les privilèges qu'on a. Alors après, du coup, ça voudrait dire commencer à parler de quelle solidarité nous, avec nos privilèges, on peut apporter à d'autres luttes, en fait.
Oui, et comment, même dans un confort de vie comme on peut avoir, on est légitime à vouloir changer des fonctionnements, changer de système et à user de violence. Et qu'en fait, je pense pas que ça soit seulement dans des stratégies de survie que du coup, il faille répondre à la violence par la violence. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que dans d'autres situations comme celles qu'on vit où on a un certain confort de vie au quotidien, eh ben, c'est tout à fait légitime de chercher à être plus offensive à des moments. Et moi, par exemple, je me sens un peu souvent anesthésiée par l'état un peu individualiste que je ressens autour de moi et un manque d'énergie par rapport à pas mal de choses. Et bah, je sais pas, c'est ce qu'on dit aussi par rapport aux aides sociales quand elles sont arrivées en France, au RMI, RSA. C'est aussi des moyens... bah moi, qui me permettent de vivre à des moments donnés, mais qui aussi font une pacification sociale, que les gens voilà, se révoltent pas parce qu'ils tiennent à leur confort de vie. Et je partage cela, je vis là-dedans aussi, et à des moments, j'aurais aussi envie de bien bouger de tout ça quand même.
Ouais, puis je pense que toute cette conversation, elle vient du fait que j'ai l'impression que dans un certain milieu politique radical... d'entendre parler de mouvements donc politiques qui sont genre hyper radicaux, hyper violents, ça a une sorte d'effet un peu complexant où tout d'un coup, tout de suite, ce que ça nous renvoie, c'est soit la peur, soit la honte de pas en faire autant ou de pas faire aussi bien. Et en fait, je voulais juste rappeler que si nous on diffuse ces informations-là, c'est pas pour qu'on se sente mal de pas faire assez ou d'être trop nul ou d'avoir peur ou de pas être assez violente et tout ça, mais vraiment pour donner de la force en fait, pour que tout le monde sache que des transpédéguines qui se font agresser constamment, et ben il y en a qui se laissent pas faire, et moi c'est un truc qui me donne clairement de la force dans la vie pour répondre à plein de trucs, mais aussi pour construire des nouvelles choses, quoi. Voilà, et ben en fait peut-être on va un peu changer de programme parce que il reste plus que 5 minutes, quoi. Alors du coup je vais vous lire un tout petit extrait du premier texte qui était dans la brochure Queer Ultraviolence. Et on va en dire 2-3 mots et puis après on va se quitter. Alors, du coup, pour être tout à fait clair, nous avons ressenti un tel désespoir de ne jamais pouvoir atteindre le niveau culturel et vestimentaire des 5 gays de Queer Eye for the Straight Guy. Brokeback Mountain nous a laissé indifférentes. Nous avons beaucoup trop longtemps baissé la tête dans les couloirs. Le mariage ou l'armée, on n'en a rien à branler. Mais oh oui, nous avons fait du sexe, super chaud, partout, dans toutes les positions, surtout celles qui nous étaient interdites, et c'est clair, il ne vaut pas mieux que les autres garçons, il vaut mieux que les autres garçons de l'école ne l'apprennent pas. Et puis, quand j'avais 16 ans, une petite brute m'a poussé et m'a traité de pédé. Je lui ai mis mon poing dans la gueule. Le contact de mon poing avec son visage était bien plus sexy et libérateur que tout ce que MTV a jamais offert à notre génération. Le liquide pré-éjaculatoire du désir aux lèvres, dès lors, j'ai su que j'étais anarchiste. En bref, ce monde n'a jamais été suffisant pour nous. Nous lui disons « Nous voulons tout, connard, essaie donc de nous arrêter. L'obscénité, c'est notre politique. L'obscénité, c'est notre vie. » Alors, je pense que j'ai lu en particulier cet extrait parce qu'évidemment, la brochure est très intéressante et très politique. Elle raconte plein d'actions et tout ça. Mais j'ai lu particulièrement cet extrait parce qu'il y a un des points de la brochure qui a fait pas mal réagir ici. C'était ce côté, la place que prend le sexe et, dans le discours politique de Bashback.
Oui, c'était aussi sur la sexualisation de la colère et des identités en fait, et voilà, bah moi par exemple, j'ai pas envie que ma colère et mes révoltes se définissent que par la sexualité ou la sexualisation, et en fait je trouve de la colère de plein d'autres manières, et voilà, que je pense que nos identités trans, PD, Gwyn, queer, elles se résument pas à de la sexualité ou à de la libération par rapport aux contraintes là-dessus, mais qu'il y a plein d'autres choses qu'on a exprimées autour de ça, et que ça peut aussi être un côté validiste ou normatif que de porter ce discours, parce qu'il y a des personnes qui peuvent être plus facilement sexualisés que d'autres et qui ont plus de pouvoir par rapport à ça que d'autres.
Ouais, moi je contredis pas du tout ça, mais c'est vrai que moi quand j'ai entendu cette critique, je me suis un peu révoltée contre l'espèce d'idée vachement dominante dans le gauchisme qu'il faudrait qu'on fasse la révolution par devoir et qu'on la fait pas par désir. Alors que moi clairement, j'ai l'impression que c'est un peu... Enfin, que c'est vraiment la norme là, de penser qu'on l'a fait par devoir, alors qu'en fait, je suis moi persuadée en tout cas de faire la révolution par désir, par exemple. Et du coup, je pense que ça a un peu cette place-là aussi, la sexualisation, et de se réapproprier le fait que les hétéros pensent qu'on est complètement obscène. Ça, je trouvais que moi, ça avait un truc un peu intéressant, quoi. Mais bon, du coup, c'était une controverse assez intéressante autour du sujet. Et comme il est presque l'heure de se quitter, on va juste donner quelques points d'agenda. Ouais.
Petit point agenda vite fait pour rappeler que le 13 janvier, tous les 13 du mois, on est en année 2013 maintenant, donc les apéros féministes auront lieu tous les 13 du mois. Alors le 13 janvier, ça sera toujours au local féministe 8 rue de la Victoire à Lyon, en non-mixité meuf queen trans. Voilà, et y aura une autre manif fin janvier pour l'égalité des droits, le 26 janvier à la place Bellecour. On aura sans doute l'occasion d'en reparler, mais peut-être qu'on aura l'envie, l'énergie collective de créer d'autres choses comme un pink bloc ou un collectif transpédéguine féministe pour cette marche. Voilà, c'est un appel après cette émission, en espérant que ça donne des envies de plein d'autres choses collectivement.
Ouais, on espère vraiment que cette émission va vous donner plein d'idées, de la force, et on se retrouve dans 2 semaines.
Bonne soirée.
Salut.